Il est 7h.
Il faut maintenant construire des ponts, qu'on puisse commencer à revivre normalement. Et ça devient vraiment pénible.
Les habitants de la vallée de la Roya scrutent la météo avec angoisse. Ce week-end, ils se sont encore retrouvés isolés à cause des intempéries. Nous serons à Tende, déjà durement éprouvés par la tempête Alex. Conseil de défense ce matin à l'Élysée. Le gouvernement se laisse encore quelques jours pour annoncer d'éventuelles restrictions supplémentaires. Peut-être un reconfinement, alors on prend ses précautions chez le coiffeur par exemple.
Les personnes nous appellent, elles nous supplient. Mais juste la couleur, on repart les cheveux mouillés, c'est pas grave. Il faut me le faire cette semaine, voilà.
L'analyse des eaux usées, indicateur très intéressant pour connaître l'évolution de l'épidémie. Selon les dernières données, la courbe est bien repartie à la hausse après les fêtes, mais elle se stabilise. Un accord d'indemnisation pour 37 victimes présumées d'Harvey Weinstein aux États-Unis. Elles vont se partager 17 millions de dollars. Et puis vous attendez avec impatience ou inquiétude l'arrivée de la 5G. Eh bien sachez que les pros des télécoms sont déjà passés à la suite. Ils préparent la 6G.
Juste après ce journal, à défaut d'avoir son vaccin, Sanofi va conditionner celui des concurrents. L'éclairage Géco, Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, Liseroux, Le Cam, Brady, Zlatan, les seniors ont la cote, l'édito sport de Virginie Fulpin avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Coupé du monde, nouveau calvaire pour les habitants du haut de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Un secteur ravagé par la tempête Alex en octobre. Le week-end dernier, les fortes pluies et la fonte des neiges ont provoqué une nouvelle montée des eaux qui a rendu la route vers Tende impraticable.
Et ce matin, elle est rouverte, mais les habitants restent très inquiets, comme l'a constaté sur place notre envoyé spécial Frédéric Michel.
Ce week-end, on a eu peur quand même. Hein.
Jean-Marc tient le tabac de Tende, l'un des rares commerces encore ouverts dans la commune.
Il y a eu des passages à gué qui sont partis. Ça a été quand même très très vite réparé. Hein.
Les deux passages à gué emportés par la force des eaux ont été remis en état, mais les habitants vivent dans l'angoisse de nouvelles pluies.
C'est pas rassurant. Il va y avoir la fonte des neiges, ça risque de se reproduire.
À chaque pluie, on a peur. À chaque pluie, on se dit on va plus avoir de route. Il nous faudrait vraiment des ponts un peu costauds, quoi.
Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende, sait que la reconstruction prendra du temps, mais s'exaspère de ne voir que des solutions provisoires.
Il faut maintenant construire des ponts, plus de passages à gué, qu'on puisse commencer à revivre normalement. Vous avez vu, jusqu'à la mi-mars, on n'aura pas un train et ça devient vraiment pénible.
Le préfet chargé de la reconstruction des vallées dit comprendre l'impatience des habitants de la Roya, mais Xavier Pelletier prévient, pas question de brûler les étapes.
La reconstruction, elle ne sera pas instantanée, elle prendra énormément de temps. Elle nécessite des études. On est sur un territoire de montagne, il y a énormément de paramètres à prendre en considération, la topographie est compliquée. On a encore des glissements de terrain, des sols qui s'affaissent. Entre libre dans la vallée et temps, on a 90 ruptures de voies.
Et les travaux devraient coûter 1,5 milliard d'euros. Tende, Frédéric Michel, Europe 1.
1,5 milliard de travaux, c'est colossal. Hein.
Ce matin, encore un conseil de défense à l'Élysée et une montagne d'incertitudes. On sait qu'Emmanuel Macron attend de connaître les effets du couvre-feu et l'évolution du variant anglais.
Et il y a un indicateur qui est scruté à la loupe car il donne la tendance avant tous les autres. C'est l'analyse des eaux usées. 150 stations d'épuration sont surveillées par le réseau Aubépine pour repérer des traces de Covid. Victor Delande s'est rendu dans celle de Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines.
Des milliers de mètres cubes d'eau usée sous nos pieds, des immenses tuyaux, des hangars à perte de vue et au milieu, une toute petite boîte en plastique pour collecter des échantillons d'eau reversés par les Français. Un procédé que nous détaille Jean-Pascal Chuzel, directeur d'agence à la Cévesque, filiale de Suez.
Cet équipement permet de prélever des échantillons sur une durée donnée, donc en l'occurrence sur 24 heures, de façon à permettre d'avoir quelque chose de représentatif de la vie de la population et de pouvoir avoir toutes les phases de la journée et de la nuit.
Des échantillons ensuite envoyés au labo à l'aide de tests PCR. Les scientifiques cherche des traces du coronavirus. Et ces dernières semaines, il y en a beaucoup. Contrairement à ce qu'a affirmé le gouvernement, la courbe est bien repartie à la hausse juste après les fêtes de Noël. Et depuis, elle se stabilise, comme l'explique Yvon Madet, cofondateur du réseau Aubépine.
Le niveau dans certaines stations est fort. Il y aurait de la marge pour qu'il puisse remonter encore un petit peu. On ne le souhaite pas, mais il y aurait encore, par rapport à ce qu'on a eu, oui, il pourrait encore remonter un petit peu. Il n'est pas au niveau, de façon globale, du début de la deuxième vague.
Mais pour la première fois, il y a des grosses différences d'une station d'épuration à une autre. Peut-être une incidence du variant anglais. Une nouvelle souche que les scientifiques arriveront bientôt à isoler directement dans les eaux usées.
Reportage de Victor Delande. Confinement ou pas, c'est l'incertitude, mais vous êtes nombreux à prendre vos précautions.
Oui, chez le coiffeur, par exemple. Franck Provost, Jean-Louis David ou encore Saint-Algue ont enregistré 2 fois plus de rendez-vous en une semaine. Illustration ce matin avec ce reportage d'Élise Dangean dans un salon parisien.
Je peux être confinée, je suis tranquille, je serai bien coiffée.
Pas un cheveu qui dépasse, une nouvelle couleur flamboyante et un large sourire sur le visage. Maud est armée pour un éventuel troisième confinement. C'est aussi ce qu'est venue chercher Cécile. La jeune avocate a d'ailleurs préféré avancer son rendez-vous de quelques jours.
Par mesure de précaution, pour ne pas être coincée et avoir des cheveux blancs pendant un mois et demi.
C'est un peu le mot d'ordre ici, on ne prend plus aucun risque. Avec ses cheveux, Colombe, 19 ans, a bien retenu la leçon.
Je viens parce que ma frange a poussé et que pendant le deuxième confinement, je l'ai coupé toute seule parce que je pouvais pas sortir. Là, ça a bien un trou. Donc, j'ai utilisé mes ciseaux de cuisine parce que j'ai pas de ciseaux de coiffeur. Et en fait, j'ai pas envie de me retrouver moche et déprimée pendant le confinement face à mon miroir.
Alors, tous les moyens sont bons, raconte Marie, la manager du salon.
Les personnes nous appellent, elles nous supplient, mais juste la couleur, on repart les cheveux mouillés, c'est pas grave, il faut me le faire cette semaine, voilà.
Mais pas facile de satisfaire tout le monde, qui plus est en période de couvre-feu. Le salon a beau ouvrir 30 minutes plus tôt le matin, ça ne peut pas compenser les deux dernières heures de la journée.
Vous par contre, Mathieu, le coiffeur, vous avez zappé.
Je ne sors pas les cheveux mouillés. Ah non, je ne sortirai pas les cheveux mouillés.
500 000 nouveaux créneaux de rendez-vous pour la vaccination devaient être ouverts hier. Ils sont finalement reportés à vendredi à cause de la baisse des livraisons de Pfizer. Pfizer-BioNTech qui va recevoir l'aide de Sanofi pour ses vaccins. Comme Europe 1 vous le révélait dès le 7 janvier, le labo français devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici la fin de l'année.
Les États-Unis vont commander 200 millions de doses supplémentaires, moitié chez Pfizer, l'autre moitié Moderna. Écoutez, Joe Biden, le président, convaincu que toute la population pourra être vaccinée d'ici à la fin de l'été.
C'est suffisamment de vaccins pour vacciner 300 millions d'Américains d'ici la fin de l'été, le début de l'automne. Je veux le répéter, 300 millions d'Américains, on vaincra cette pandémie.
On vaincra cette pandémie. Promesse du nouveau président américain Joe Biden. Toujours aux États-Unis ce matin, un accord d'indemnisation a été validé dans l'affaire Weinstein.
Oui, 17 millions de dollars. C'est la somme que vont se partager une quarantaine de victimes de l'ancien producteur de cinéma, Xavier Yvon. Est-ce que cet accord signe la fin de l'affaire Weinstein ?
Alors, pour les 37 femmes qui vont accepter l'argent, oui, c'est la fin de l'histoire, puisqu'elles s'engagent en échange à ne plus poursuivre en justice Harvey Weinstein. Pour elles, c'est une manière d'être reconnues comme victimes, sans subir de longues procédures à l'issue incertaine. C'est pour ça que leurs avocats se disent satisfaits. Les indemnisations peuvent aller jusqu'à 1,5 million de dollars pour celles qui ont été agressées physiquement par Harvey Weinstein. Pour l'ancien roi d'Hollywood, en revanche, ce n'est pas fini. 8 femmes ont refusé le deal. Elles toucheront seulement un quart de leur part pour garder le droit de le traîner devant les tribunaux. Harvey Weinstein attend aussi d'être jugé à Los Angeles pour viol et agression sexuelle sur 5 femmes. Il a également fait appel de sa condamnation à New York l'année dernière. Il avait été écopé de 23 ans de prison, une peine qu'il purge en ce moment dans un pénitencier près de la frontière canadienne.
Merci Xavier Yvon. En France, c'est le plus célèbre de nos cold cases qui pourrait connaître un rebondissement. L'affaire Grégory, plus de 36 ans après les faits, la cour d'appel de Dijon annonce ce matin si elle autorise de nouvelles analyses ADN. On va y revenir dans le journal de 7h30. Et puis on vient de l'apprendre, 6 ONG dont Amnesty International lance une action de groupe contre l'État pour mettre fin au contrôle policier au faciès.
7h08 sur Europe 1. Les élections régionales et départementales sont reportées en juin. Le Sénat a donné son accord hier.
Oui, mais l'opposition reste sur ses gardes. Pas question que le scrutin intervienne après la présidentielle de 2022. Aurélie Herbemont.
Des élections en juin, dernier délai. Le sénateur LR Philippe Bas fait bien passer le message au gouvernement.
Nous ne pouvons que nous opposer à la manipulation du calendrier électoral pour des raisons de convenance personnelle. Tout report à après juin se heurterait à des difficultés politiques et constitutionnelles si on reportait ces élections à une date postérieure à l'élection présidentielle.
Et les sénateurs de dérouler les arguments en faveur du vote avant l'été, nécessité de faire vivre la démocratie malgré le virus, exemple du Portugal qui vient d'organiser sa présidentielle en plein confinement. Mais on ne peut pas dire que la confiance règne entre sénateurs et gouvernement. La ministre Marlène Schiappa est obligée de déminer.
Il n'y a pas de nouvelle date, il n'y a pas de date cachée, il n'y a pas de projet caché du gouvernement en ce qui concerne le calendrier. C'est bien notre intention de faire en sorte que ces élections se tiennent en juin.
J'essaye de me convaincre qu'elle dit vrai, glisse un sénateur. L'opposition attend désormais les modalités concrètes concernant l'organisation en gage de bonne foi de l'exécutif.
Et les députés prendront leur décision sur le report de ces régionales le 9 février. Aujourd'hui, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, est entendu par la Commission des lois de l'Assemblée.
On parle beaucoup de la 5G, surtout avec la présentation hier de l'usine Huawei de Brumath en Alsace. Eh bien, les rivaux du géant chinois sont déjà sur les starting blocks pour la suite.
Oui, Ericsson se lance dès maintenant dans la 6G, Clément Le Saffre.
Bah oui, ça paraît complètement fou puisque la 6G ne sera pas déployée avant 2030. Mais voilà, les enjeux sont énormes. Elle pourrait offrir un débit 10 fois plus rapide que la 5G et 100 fois plus rapide que la 4G. Une potentielle révolution pour nous et surtout pour les entreprises. Les travaux ne font que commencer. La plupart des usages restent encore à imaginer. Mais pour Victor Arvidsson, directeur de la stratégie d'Ericsson France, il faudra impérativement un focus environnemental pour que la 6G soit pertinente dans le monde de demain.
Une évidence pour nous, c'est qu'il faut qu'on arrive à déployer ces réseaux en maîtrisant complètement leur consommation énergétique et en s'inscrivant dans les objectifs des accords de Paris.
Et pour ne pas courir après Huawei, l'Europe a donc lancé deux projets, Reindeer et ExaX, pilotés par Nokia et Ericsson. Avec l'aide d'industriels, d'instituts de recherche et des opérateurs télécoms, dont Orange, ils ont 3 ans pour définir une feuille de route qui fera de l'Europe le leader technologique sur la 6G.
Clément Le Saffre.
Alors, ni 5G, ni 6G. On va s'amuser, on a le temps, dans 10 ans. Est-ce qu'on dit 6G ou 6G? On aura l'occasion d'en reparler. Mais ni 5G, ni 6G, rien de tout ça. Pas facile de joindre les skippers du Vendée Globe en pleine mer. Ils sont 5 dans un mouchoir de poche, attendu à partir de ce soir au Sable d'Olonne.
Et celui qui est en tête ce matin, c'est Charlie Dalin, comme chez lui, dans le golfe de Gascogne.
Je connais mieux le golfe de Gascogne que mon propre jardin, je pense. C'est une zone de navigation gestionnée en large et en travers. Depuis 10 ans, c'est ma zone de navigation que je connais le mieux, c'est sûr. Et oui, là, j'ai l'impression d'être sur une dernière nuit d'une dernière étape de solitaire. Enfin, dernière nuit plus dernière journée, quoi.
Voilà, dernière nuit en mer pour Charlie Dalin, suivi de très près par l'Allemand Boris Herrmann et les Français Louis Burton, Thomas Ruyan et Yannick Bestaven. Mais l'ordre d'arrivée risque d'être bousculé par les bonifications de temps pour ceux qui ont participé au sauvetage de Kevin Escoffier.
Et pour tout suivre, pour tout comprendre minute par minute sur ce final haletant du Vendée Globe, rendez-vous sur Europe1.fr bien sûr. Hélène Zellani, merci beaucoup. C'était le journal de 7h sur Europe 1, il est 7h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On vous emmène au cinéma ce matin. Alors non, malheureusement, les salles n'ont pas rouvert. Mais malgré tout, le festival du film fantastique de Gérard May se tient en virtuel. Vous pouvez voir les films depuis chez vous. Mon invité est membre du jury. Et on va jouer à se faire peur ce matin. Film fantastique, film d'horreur avec Maxime Chattam, le romancier à succès. Son dernier livre, L'Illusion, ce sont 100 000 ventes déjà. Un huis clos dans une station de ski déserte. Et justement, est-ce que la réalité rattrape la fiction ? Tremblez, Maxime Chattam, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les deux projets de vaccins de Sanofi n'étant pas prêts, le groupe pharmaceutique français annonce, et ce n'est pas rien, qu'il va sortir de ses usines le vaccin d'un de ses concurrents. C'est extrêmement rare.
C'est rare et alors c'est clairement pas le scénario rêvé pour le numéro 2 mondial des vaccins. Le patron de Sanofi, Paul Hudson, reconnaît même lui-même qu'il n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver un jour de produire le vaccin d'un autre. Mais comme il le dit, ce combat contre cette pandémie de Covid-19, c'est ma deuxième guerre mondiale et à la guerre comme à la guerre, Sanofi va donc mettre ses capacités de production à disposition, non pas donc pour réellement produire, mais plus précisément pour mettre en flacon le vaccin de la biotech allemande BioNTech, propriété de l'industriel américain Pfizer. Dès le mois de juillet, 15 millions de doses sortiront chaque mois de l'usine allemande de Sanofi. C'est un effort de l'industriel français, encouragé par Bercy, mérite d'être salué.
C'est du conditionnement, mais on parle du conditionnement de mise en flacon d'un produit extrêmement spécifique.
Exactement. Flaconné, très technique.
Flaconné, un nouveau verbe du premier groupe que vous verrez apparaître aujourd'hui. L'État français a beaucoup poussé pour cette solution.
Oui, la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, est montée au front sur ce dossier dès qu'on s'est rendu compte que les projets de vaccins de Sanofi allaient prendre du retard. Grâce à cet accord entre Sanofi et Pfizer, l'Europe va donc disposer au cours du second semestre de 100 millions de doses supplémentaires. Il y a urgence, l'Europe est à la traîne. Nous n'avons vacciné que 2 personnes pour 100 habitants. C'est 3 fois moins que les États-Unis, 5 fois moins que le Royaume-Uni et 20 fois moins qu'Israël.
Sanofi, contrairement au laboratoire Merck, associé à Pasteur, va néanmoins continuer la mise au point de ses propres vaccins.
Oui, alors ça c'est important de le dire, son projet principal développé avec le britannique GSK doit aboutir au quatrième trimestre. Sanofi est confiant sur sa technologie et estime même qu'il y a de bonnes chances, grâce à la présence d'adjuvants, qu'elle se révèle plus efficace pour faire face aux multiples variants qui apparaissent ou vont apparaître dans le futur. Enfin, Sanofi développe également son propre vaccin à base d'ARN messager, comme celui de BioNTech, cette fois avec la biotech américaine Translate Bio. Là aussi, il vise une commercialisation vers la fin de l'année. Le patron de Sanofi dépense 6 milliards d'euros en recherche et développement par an, se défend d'avoir été trop conservateur dans ses choix stratégiques. Seulement, à la fin de la guerre contre le virus, il faudra malgré tout faire le bilan et comprendre ce qui, en France, n'a pas marché, ou trop tard, dans la mise au point de vaccins, alors que nous disposons en la matière d'une recherche et de scientifiques oui, de pointe.
Il faudra se poser ces questions, bien sûr, à un moment. Nicolas Barré, merci beaucoup, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h18. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
En Espagne, en pleine flambée de l'épidémie, le ministre de la Santé démissionne.
Oui, on a connu ce genre de scandale en France. Salvador Illa quitte le gouvernement pour tenter de se faire élire à la tête de la Généralité de Catalogne. Les sondages affirment qu'il est le seul capable de barrer la route aux indépendantistes et du coup, on lui pardonne de quitter le navire dans la tempête. Ce n'est pas le calcul d'un politicien, mais le devoir d'un homme d'État. C'est pas un suicide, c'est un sacrifice. S'il échoue, lui n'ira pas se cacher en Suisse, à l'OMS. Salvador Illa fait partie des miraculés du Covid. Avant, il était l'apparatchik d'un petit parti de gauche. Il est devenu le ministre le plus connu du pays. Depuis un an, la figure rassurante qui parle aux Espagnols la voix de la raison. Ses lunettes austères, son flegme font merveille. On dirait le médecin de famille qui ment doucement au chevet du mourant. Il avait promis de vacciner tout le monde d'ici l'été. Au rythme actuel, il faudra 7 ans. Salvador Illa a fait des études de philo, pas de mathématiques, ni de médecine. C'est sans doute préférable d'être philosophe dans la catastrophe.
Hein. Oui, il faut être un peu philosophe en ce moment, Vincent. L'élection, c'est le 14 février.
Alors l'épidémie risque de chambouler le programme, elle est hors de contrôle, la troisième vague est féroce, les records tombent, 40 000 cas et 600 morts par jour. Les Espagnols payent les fêtes de fin d'année et le variant anglais qui a débarqué. C'est l'un des trois pays européens les plus touchés, celui qui a connu le confinement le plus sévère, le plus long, celui à qui il a coûté le plus cher, l'économie est dévastée, les Espagnols traumatisés. Et c'est bien pour ça que le gouvernement de Pedro Sanchez refuse obstinément de décréter un nouveau confinement général alors que les régions le supplient, le royaume n'en a plus les moyens.
Il y a quand même l'état d'urgence sanitaire.
Oui, mais alors chaque maire, chaque communauté autonome, chacune des 17 régions l'applique comme il l'entend. Ici, le couvre-feu à 20h. Ailleurs, les bars restent ouverts. On fait 10 km et c'est exactement l'inverse. Et ça change tout le temps. Le mode d'emploi est dans les journaux. Avec à la une, le scandale des pistonnés qui se sont fait vacciner en douce. Le chef d'état-major vient de sauter et des politiciens démissionnent. On voit que l'Espagne a peur. Elle ne sait plus à quel sein se vouer et elle cherche des boucs émissaires.
Vincent Hervouet, merci Vincent. Le regard international tous les matins sur Europe 1. Il est 7h21. Et tout de suite, les seniors du sport à l'honneur. Lizrou, Brady, Ibrahimovic, Le Cam. On peut durer et performer. L'édito sport de Virginie Fulpin dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le skieur français Julien Lizeroux a disputé sa dernière course hier à Schladming, pendant que sa compagne, Tessa Worley, remportait le géant de Kronplatz. Il prend sa retraite à 41 ans. Les sportifs quarantenaires sont nombreux aujourd'hui. Et pour vous Virginie, les vieux sont l'avenir du sport.
C'est quoi être vieux quand on est un sportif? Au début des années 2000, on s'extasiait presque quand les sportifs poursuivaient leur carrière après 30 ans. J'ai retrouvé pas mal d'articles de presse qui se demandaient quel était le secret de la longévité des trentenaires. Bah ouais, en gros, on restait sur deux exemples immuables, hein, Gianni Longo oui, et Jimmy vrai. Connors,
oui.
Pour illustrer la légende des sportifs qui durent. J'exagère à peine. Hein. Mais aujourd'hui, les quarantenaires au plus haut niveau sont légion. Oui, regardez ce qui s'est passé le week-end dernier. Le skieur français Johan Claret est devenu le premier quarantenaire à monter sur un podium de Coupe du Monde. Et le footballeur américain Tom Brady s'est qualifié pour le 7e Super Bowl de sa carrière à 43 ans. Et puis les joueuses et joueurs de tennis qui se retrouvent sur la route de Serena Williams ou de Roger Federer ne se demandent pas quel est l'âge du capitaine. Ils espèrent juste grappiller quelques jeux. On vit plus longtemps, on est aussi sportif de haut niveau plus longtemps. Il faut dire que l'hygiène de vie a bien changé depuis les années 80 où les footballeurs anglais arrosaient de bière leur pizza riche en mauvaises calories dans les vestiaires. Hein. Voilà, c'était au choix. Les sportifs se nourrissent mieux, sont mieux préparés physiquement, rien n'est laissé au hasard et forcément les carrières s'étirent.
Et le regard a changé sur les sportifs vieillissants.
Heureusement, on a enfin compris qu'être sportif, ça n'est pas que de la vitesse et de l'explosivité. C'est aussi de l'intelligence de jeu, de course et ça se peaufine avec l'expérience. Les jambes vont moins vite, mais le cerveau accélère normalement. Et dans une équipe, évidemment que ça aide d'avoir un vieux. Regardez Zlatan Ibrahimovic au Milan AC, c'est lui le leader du vestiaire. À cause de sa personnalité, oui, mais aussi de son vécu. Il peut transmettre beaucoup de choses aux plus jeunes. Enfin, peut-être pas tout non plus, vu qu'il a encore pris un carton rouge hier soir, et qu'à 40 ans, il peut encore se comporter n'importe comment sur un terrain. J'espère que c'est pas ça le secret de sa longévité. Et puis je crois que notre regard de spectateur a aussi évolué. On n'a plus forcément envie de ne voir à l'œuvre que des prodiges à peine sortis de l'adolescence. Les plus âgés ont toute leur place. Les premiers marins du Vendée Globe vont arriver dans les heures qui viennent au Sable d'Olonne, lors d'un final passionnant d'ailleurs. Mais celui qui a gagné les cœurs, ça reste Jean Le Cam, le vétéran de la course. Quand on a 61 ans, on arrive à relativiser, sauver une vie compte plus que d'arriver premier. Oui, les sportifs plus âgés peuvent apporter un supplément d'âme dans le sport.
Merci Virginie Fulpin, c'est très vrai. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir personnel d'une époque où on avait encore la possibilité d'aller dans des stades. J'ai vu un PSG Dijon, si ma mémoire est bonne, avec un Florent Balmont de presque 40 ans sur le terrain.
Mais oui, c'est de plus en plus, il y a des exemples comme ça, on en a de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
Avec une hygiène de vie irréprochable, ça va de soi. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport, 7h27. Vous êtes sur Europe 1 et nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis une personne simple, sans chichi, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bref, je suis pas du genre à faire tout un pataquès pour un oui, pour un non.
Faire tout un pataquès, ça se dit d'une personne qui en fait des tonnes, qui se met en scène. Mais alors, d'où est-ce que ça vient ?
Eh bien, imaginez-vous que ça vient d'une blague du XVIIIe siècle. Vous ne m'en voudrez pas, mon cher Mathieu, si elle a donc un peu vieilli.
Si peu.
Un jeune homme était au théâtre, assis à côté de deux femmes visiblement très apprêtées, avec des toilettes exagérément soignées et parlant très fort pour se donner en spectacle. Tout à coup, il trouve un éventail. Il leur demande « Madame, il est à vous ?» Elle répond « Non ». « Il n'est point à moi. » Le jeune homme s'adresse alors à la deuxième. « Est-il à vous ?» Elle répond « Non, il n'est pas à moi. » Le jeune homme conclut en disant « S'il n'est point à vous, ni à vous, mais je ne sais pas ta caisse. »
Non. C'est vraiment ça ?
Oui, voilà comment une blague sur les personnes adeptes des liaisons dangereuses a donné naissance à une expression « en faire tout un pataquès ». L'histoire est-elle authentique ? Rien ne le prouve. En tout cas, on la doit à un grammairien du milieu du XVIIIe siècle, François Urbain d'Omergue. Dans le même registre, quittons-nous sur un bon mot de l'humoriste Marc Esquerol. « Gare aux fautes de liaison, si on achète un jeune dalmatien dans un chenil, s'agit-il d'un chiot acheté ou d'un chiot tacheté ?»
Vous avez 4 heures. À 4 heures justement, 16 heures, historiquement votre Stéphane Bern.
On réunit le roi Charles VIII, Joseph Merrick, dont la triste vie a inspiré le film Elephant Man, et Amy Winehouse. Leur point commun ? Ils sont membres du club qui réunit surtout des grands noms du rock, le club des 27, l'âge auquel ils sont morts malheureusement.
À tout à l'heure 16h. 7h29, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et chers amis, si vous avez un conjoint que vous avez surnommé Doudou, vous pouvez lui dire, il va faire doux, Doudou. Oui, il va faire doux, parce que la douceur est là. Elle est actuellement présente sur l'Atlantique, mais elle n'est pas encore chez nous. Mais elle arrive à grands pas, et nous avons des températures presque positives aujourd'hui, avec à la clé, la pluie. Et la pluie, elle arrive sur un sol froid, résultat du verglas, on connaît le cinéma, on connaît l'échéance, la neige, le froid, le verglas, et tout ceci va s'échapper pour laisser place à la douceur dans les heures qui viennent. La Lorraine, le Dijonais et l'Auvergne sont les régions les plus marquées par ce changement de temps, avec du verglas et de la pluie, et parfois de la neige, notamment sur les Alpes, là que je n'ai pas cité, mais où il neigera beaucoup aujourd'hui, comme sur la Franche-Comté. Un temps de bruine sur la Normandie, la Picardie, le Nord, la région parisienne, la Champagne et le Morvan. Pas terrible, c'est un peu le gnagnan, et ce sera donc de la bruine toute la journée, ou en tout cas un ciel très couvert dans ces régions, y compris sur la capitale. Dans le Sud-Ouest, le Poitou-Charentes, la Vendée, la Loire-Atlantique et la Bretagne, montagnes. Là, c'est carrément de la pluie, surtout dans le sud-ouest. Il pleut pas mal. Les températures, donc, aujourd'hui, vont grimper. 7 à Dijon, 8 à Lille, 11 à Paris, 12 à Périgueux, 13 à Nice, 14 à Marseille. La douceur va durer demain et après-demain. Et on parle de la suite tout à l'heure.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Et on reparle ce matin de l'affaire Grégory. Les parents du petit garçon demandent de nouvelles expertises génétiques. La justice dira tout à l'heure si elle accepte de les lancer. L'Allemagne va-t-elle se cadenasser face au virus? Les autorités envisagent d'interrompre le trafic aérien vers son territoire. Dans ce journal, le désarroi des saisonniers privés de stations de ski cette année. Sans contrat, impossible de bénéficier du chômage partiel. Et puis le flou autour de la participation de la France au tournoi des 6 nations de rugby. Il démarre dans 2 semaines, mais pas sûr que les Bleus aient le droit de quitter le territoire.
Juste après ce journal, l'atout Cham, Bertrand Chamerois et son regard décalé sur l'actualité. Le romancier Maxime Chattam avec nous ce matin, maître de l'épouvante et membre du jury du festival du film fantastique de Gérard May, le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique Nicolas Bétou et cette question, faut-il sortir les médecins médiatiques des plateaux télé? Juste avant Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Ce matin, Bertrand Perrier, avocat, enseignant et auteur de La parole est un sport de combat chez Jean-Claude Lattès. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1. Il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Énième chapitre dans l'affaire du petit Grégory, plus de 36 ans après la mort de l'enfant. Et alors qu'on ne connaît toujours pas l'identité du corbeau, ses parents ont demandé de nouvelles analyses ADN. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon doit se prononcer aujourd'hui sur la tenue ou non de ces expertises. Et si la justice y est favorable, Marion Dubreuil, cela pourrait donner un nouveau souffle à l'enquête.
Oui, les avocats des époux Villemain veulent tirer profit de chaque avancée scientifique pour réinterroger les scellés du dossier Grégory. Cette fois-ci, il s'agit de comparer les 9 fragments d'ADN isolés sur des courriers anonymes, une seringue et les vêtements du petit garçon avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques grâce à une technique récente. Maître Marie-Christine Chastan-Morand.
On a demandé qu'on puisse faire une recherche avec l'ADN de parentèle. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher des similitudes à 100%, ça permet de rechercher des similitudes à 50%. Donc ça double le spectre de possibilités de matcher.
Cet outil a permis à Thierry Moser, le conseil historique de Jean-Marie Villemain, d'obtenir la résolution d'un autre cold case, le dossier Kulik du nom de cette jeune femme, violée et tuée en 2002. L'ADN de parentèle avait permis de remonter jusqu'au père d'un des 2 suspects. Les parents de Grégory ont également demandé le prélèvement ADN de 37 personnes supplémentaires dans l'entourage et du petit garçon.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
À la une de l'actualité, record macabre. Au Royaume-Uni, le pays vient de franchir le seuil des 100 000 morts du Covid.
Mais c'est le plus lourd bilan en Europe. Au cours d'une allocution hier, le Premier ministre Boris Johnson s'est dit profondément désolé pour chaque vie perdue. Il a dit assumer la pleine responsabilité de ce que le gouvernement avait fait.
En Allemagne, la situation est un peu moins catastrophique. Près de 6 000 nouveaux cas par jour. C'est bien moins que la plupart des pays européens.
Et pourtant, pas question pour autant d'assouplir les restrictions. Au contraire, le gouvernement s'apprête à donner un nouveau tour de vis autour du trafic aérien. Hélène Kohl.
Plus aucun vol vers l'Allemagne pour réduire le plus possible les entrées de voyageurs sur le territoire. C'est la piste à laquelle le gouvernement allemand réfléchit depuis hier pour empêcher l'importation de virus mutants sur le modèle de ce que fait déjà Israël. Les vacances scolaires commencent vendredi ici et pas question d'assister aux mêmes scènes que fin décembre dans les aéroports. Plusieurs dizaines de milliers d'Allemands sont partis pour les fêtes aux Canaries ou aux Maldives. Certes, les chiffres de l'épidémie n'ont jamais été aussi bons depuis 3 mois en Allemagne, avec environ 6 000 nouveaux cas par jour, mais selon Merkel, baisser la garde serait une erreur.
Une des grandes leçons de la pandémie, c'est que le phénomène de croissance exponentielle du virus ne se voit presque pas au début, mais que c'est à ce moment-là qu'il faut agir.
Avant-hier, lors d'une réunion à huis clos, elle a exprimé son inquiétude. À ses yeux, l'apparition des variants est un événement terrible. « Nous sommes assis sur un baril de poudre », dit-elle. « La situation nous a échappé ». Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
En France, les hospitalisations continuent d'augmenter. Plus de 3000 patients sont actuellement en réanimation. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu à l'Élysée ce matin. Et si le sort des stations de ski ne devrait pas y être abordé, puisqu'on le sait, ces actées n'ouvriront pas pour les vacances de février, l'État a promis des aides pour tous les acteurs du secteur, public ou privé. Mais cela ne concerne pas les travailleurs saisonniers. Privés de contrat, ils ne peuvent pas recourir au chômage partiel. Reportage dans la station de la Plagne en Savoie de Jean-Luc Boujon.
Pour les saisonniers, cette fermeture des remontées mécaniques, c'est tout simplement la double peine. Un, ils n'ont pas de travail et donc pas de revenus. Deux, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas toucher le chômage partiel car ils n'ont pas signé de contrat. C'est le cas de Timothée, 26 ans, qui devait être serveur dans un restaurant d'altitude.
Je devais venir ici sur une promesse d'embauche, entre guillemets. Du coup, non, j'avais pas de contrat. On n'est pas du tout éligible au chômage partiel. On n'a pas de revenus, pas d'indemnité, ni quoi que ce soit.
Même chose pour Sébastien qui vient faire la saison ici depuis plus de 20 ans. Les contrats, lui, les signe en tapant dans la main du patron, d'où la galère absolue cette année.
C'est de la survie, quoi. On réduit toutes les dépenses, on va au moindre coût, on consomme pas, quoi, en fait, quoi. Manger, avoir un habitacle, et puis ça s'arrête là.
40% des 120 000 saisonniers des Alpes ne touchent absolument rien. Pourtant, l'État a promis de verser 400 millions d'euros aux employeurs, qui doivent donc jouer le jeu, estime Antoine Fatiga de la CGT.
Souvent, on a affaire à un employeur de mauvaise foi qui évoque plusieurs excuses pour pas mettre le salarié en activité partielle. Alors, il y a celui qui dit, moi, je ne veux pas ouvrir la saison, je vois pourquoi je m'emmerderais à faire de la paperasse. Il y a celui qui dit, moi l'État, il me dit qu'il faut que je paye personne.
Le syndicat qui demande au ministère du Travail de débloquer la situation en urgence. La Plagne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et un coup de pouce de la part d'Europe 1, je voudrais le souligner ce matin. Chaque mercredi, chaque vendredi, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil dans la France Bouge passent un appel à une entreprise à 13h50, entreprise qui s'engage à recruter des jeunes. Et ça commence aujourd'hui avec le réseau Orpi. 300 postes à pourvoir, je vous le rappelle, hein, la France bouge, 13h-14h sur Europe 1.
Et c'est une des conséquences de la crise du coronavirus et notamment de la fermeture des bars, des hôtels et des restaurants. Les ventes de champagne ont reculé de 18% l'an dernier. Avec 245 millions de bouteilles vendues, cela représente pour la filière une perte d'environ 1 milliard d'euros.
Et puis ce n'est sans doute pas une priorité du gouvernement, mais il va falloir trancher en Conseil de défense sanitaire. Ce matin, le cas du tournoi des Six Nations sera abordé.
À moins de 2 semaines du début de la compétition, alors Simon Rubin, on va poser une question toute simple. Doit-on autoriser le 15 de France à jouer le tournoi ?
Oui, c'est une question qui sera posée en Conseil de défense. Alors au ministère des Sports, il faut dire qu'on n'est pas rassuré hein, parce que la France doit aller en Irlande mi-février. Elle est censée se déplacer en Angleterre mi-mars et recevoir le Pays de Galles un petit peu plus tard, des pays où le variant anglais circule beaucoup. Et la crainte, eh bien, c'est que le 15 de France devienne une sorte de passerelle, de cheval de Troie qui permettrait au variant anglais de se développer encore plus vite en France. Mais évidemment, interdire de déplacement les Bleus ou bien refuser d'accueillir leurs adversaires aurait de terribles conséquences. Pour le rugby, d'abord, économique, la fédération se priverait des 17 millions d'euros de primes de participation au tournoi. Et puis, conséquences pour le sport en général. À partir du moment où on interdit aux Bleus d'aller jouer en Italie ou en Angleterre, il est difficile d'autoriser par exemple un club de foot comme le PSG d'aller jouer la Coupe d'Europe à Barcelone comme c'est prévu mi-février. Alors la tendance c'est quand même de laisser les Bleus débuter le tournoi en Italie et puis d'aviser ensuite en fonction de l'état de l'épidémie.
Merci beaucoup Simon Rubin.
Et on va suivre hein, Conseil de défense sanitaire ce matin. 7h37, merci Sophie Echenne, c'était le journal de 7h30.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, l'invité d'Europe Matin est avocat. Il enseigne l'art oratoire et vient de publier « La parole est un sport de combat ». Il reviendra sur le mal-être étudiant qu'il observe, malaise profond, comment aider, quelle réponse. Bertrand Perrier répond aux questions de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Avant cela, le romancier Maxime Chattam, membre du jury du Festival du film fantastique de Gérard May, avec le maître du fantastique, de l'épouvante, ambiance film d'horreur, dans quelques instants, une respiration. Hein. Maxime Chattam dans le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, la touche âme, Bertrand Chamerois et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Peut-on rire de tout ? Réponse avec votre invité, Mathieu, le dessinateur Viandox, qui crie à la censure.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1. La touche âme, je vous l'ai promis, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous dans Europe Matin avec Bertrand Chamerois tous les jours à 7h40. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La récente polémique provoquée par un dessin de Xavier Gorce a relancé l'éternelle question « Peut-on rire de tout ?» Mon invité ce matin se dit muselé. Il dénonce la dictature de la bien-pensance et la tyrannie des réseaux sociaux. Le dessinateur Viandox est avec nous.
Et salut la compagnie, c'est moi, c'est Viandox. Je croque l'actu, je griffonne mes coups de cœur et mes coups de griffe. Pisse froid à s'abstenir. Pourquoi ce pseudo de Viandox ? Bah parce que je balance la sauce. Hein. Ça, j'ai pas peur d'y aller. Même si aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de s'exprimer.
Hein. Alors, vous venez de publier Chagrin d'humour aux éditions André Lamy, un recueil de vos meilleurs dessins. 6 pages. Ces 6 pages dans lesquelles vous dites, je cite, on ne peut plus rien dire.
Bah oui, on peut plus rien dire. On est bâillonné, blacklisté. J'en parlais encore hier dans 3 émissions de radio. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier encore une fois de me recevoir. Je suis pas venu les mains vides. J'ai mes feuilles, mon feutre et ma malice. Alors on dit souvent que rire équivaut à manger un beefsteak. Bah là, je peux vous dire que les véganes vont faire la gueule. Vous allez bouffer de la barbaque. Allez, je vous en fais un rapide. C'est bientôt la chandeleur. Alors, il y a un personnage qui écrit le mot crêpe, mais avec une faute d'orthographe. Et l'autre lui dit, bah, pourquoi t'as pas mis d'accent circonflexe sur le E? Et l'autre répond, parce qu'en 2021, on peut plus faire d'accent. Voilà, c'est un coup de pied à la fourmilière, c'est une façon de dénoncer notre société qui a aseptisé. Où sont passés les Michel Leb, les Tex, les Guy Montagnier? Allez, un autre.
Non, ça ira Viandox, on n'a pas trop de temps.
Si, on va le prendre. Alors, c'est deux bonhommes qui discutent et ils disent, dis donc, j'ai l'impression que les patrons de presse ont fait les soldes. Ils se sont achetés une nouvelle paire de censures. Voilà. Ça, aujourd'hui, ça passe plus. Alors, ça passe plus parce que ça dérange. Ces deux dessins ont été refusés par 12 rédactions. Ils ne sont pas les seuls. Dès que ça touche à la politique, c'est sensible. Hein. Regardez celui-ci. C'est Olivier Véran qui dit « Avec les vaccins qui manquent, on n'est pas trop seringue. » Sinon, j'ai celui-ci. C'est le Premier ministre. Et dans la bulle, il y a écrit « Reconfinement ou pas ?» Quel castex.
D'accord. Merci, monsieur Viandox.
Attendez, un dernier. On voit le chef de l'État en pleine allocution et en dessous, il y a écrit « Président de l'arrêt public ». En deux mots, rapport au fait que tout est fermé. C'est bien vu, ouais. Hein. Trop, sans doute, hein, puisque ça m'a valu des insultes sur les réseaux sociaux.
Sans vouloir vous manquer de respect, monsieur Viandox, si aucune rédaction ne veut de vous, c'est peut-être simplement parce que vous n'êtes pas très bon, voire mauvais.
Eh ben voilà, on y vient. Réflexion typique de bien-pensant. Je suis sûr que vous avez Twitter. Ben voilà, j'en étais sûr. Des proches, Coluche, revenez, ils sont devenus fous. Bon, puisque c'est comme ça, je vous laisse. J'ai rendez-vous sur un autre média pour dire qu'on peut plus rien dire.
Merci Bertrand Chaveroy. La touche âme tous les matins à 7h40. C'est sur Europe 1. Merci Bertrand, à demain et à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
C'est la référence pour les amateurs du genre. Le festival du film fantastique de Gérard May démarre aujourd'hui en virtuel. Les passes pour voir les films se sont vendues en une heure. Mais vous pouvez acheter des séances à l'unité pour 5 euros. Petit parfum de cinéma, alors que les salles restent closes. Mon invité est écrivain, spécialiste du genre, membre du jury du festival. Son dernier roman, L'Illusion, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Le romancier Maxime Chattam sur Europe 1.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Maxime Chattam.
Bonjour.
Est-ce qu'on en a envie de cet univers fantastique, d'épouvante, d'horreur, ou au contraire, est-ce qu'on s'en détourne quand la réalité rattrape la fiction? Le mordu de fantastique que vous êtes, se dit pas parfois que la vraie vie est pire que dans les romans là?
Parfois, mais c'est le principe de la réalité. J'adore cette phrase de Mark Twain qui dit que la fiction, contrairement à la réalité, se doit d'être crédible, elle. Parce que la réalité nous dépasse toujours, qu'elle est parfois bien pire que ce qu'il y a dans la fiction. Et moi, c'est ce qui me plaît dans la fiction, même dans la fiction fantastique, quand on joue avec nos peurs, etc. C'est justement de pouvoir poser un cadre dans lequel le lecteur sait qu'il va pouvoir se promener et ce cadre, il est quelque part rassurant. On joue avec nos peurs, on subit pas nos peurs. Or, la réalité aujourd'hui, elle nous fait peur parce qu'on la subit, on n'a pas vraiment de prise dessus. Ouais. Donc c'est presque rassurant finalement d'aller se réfugier dans un livre ou même dans un film fantastique, parce qu'on sait que là, on va se divertir, on va s'éloigner de la réalité. En fait, nos peurs, elles sont maîtrisées. Donc quelque part, elles sont rassurantes.
Alors rassurantes, je sais pas, j'insiste hein, sur le contexte. Il ne manque en ce moment que les zombies finalement. On a même un virus mutant, une pandémie mondiale, un virus inconnu. On vit un grand classique.
Ouais, un grand classique. Alors, ce qui est effrayant, c'est que dans le grand classique, ça se finit rarement bien. Là, on voit bien que les choses avancent quand même dans la bonne direction, même si c'est pas assez rapide pour tous. Je pense que, on est quand même pas dans le domaine du film ou du roman d'horreur qui va mal tourner, heureusement d'ailleurs. Mais moi, je vais vous dire un truc. Quand on me pose la question, est-ce que ça m'inspire la situation actuelle? Est-ce que ça inspire le romancier en moi? J'ai envie de vous dire pas du tout. Et au contraire, j'ai pas envie. Là, en ce moment, j'écris un livre. Eh ben, je fais comme si ça existait pas, la Covid, la pandémie, etc. Parce que je trouve que déjà qu'on le vit, on le subit. Est-ce qu'on a en plus envie de se le rappeler quand on va lire un bouquin, etc., qui n'a rien à voir? Je crois pas. Donc, j'ai pas envie de parler de ça. Je fais comme si ça n'existe pas. C'est au moins là un privilège du roman et du lecteur, ou du spectateur, c'est de pouvoir se dire, ça, on fait comme si ça n'existait pas. On retire de l'équation tout ce qui nous arrange pas.
Mais c'est donc un scoop, hein. Ce matin, dans le prochain Maxime Chattam, les personnages ne seront pas masqués.
Non, ils seront pas masqués, sauf peut-être le tueur, bien sûr, parce que si vous savez qui c'est dès le début, ça n'est plus drôle.
Dans votre dernier roman, Maxime Chattam, L'Illusion, on se retrouve quand même hein, dans une station de ski déserte. Vous-même, là, vous devez être un peu surpris de coller autant à la réalité.
Ouais, c'est un peu triste d'ailleurs, même. Moi, ce qui m'amusait, c'était le huis clos. C'était d'imaginer ce qui se passe dans une station de ski quand il y a une dizaine de personnes, pas plus. Et de voir ce qu'on peut en faire. Une espèce de mélange entre Agatha Christie et Stephen King. Alors, j'ai probablement pas le talent des deux, mais au moins, je l'ai fait à ma sauce en m'amusant bien. Et c'est assez jouissif pour un roman. Si vous lui donnez un cadre pareil, vous lui mettez une poignée de personnages et vous lui dites maintenant amuse-toi avec ça, je peux vous garantir qu'il y a de quoi faire. Et au-delà même des révélations finales, ne serait-ce que déjà le voyage avec toutes les façons de manipuler le lecteur, de jouer avec le lecteur, je pense qu'on n'a aucune difficulté à s'imaginer dans une station de ski comme ça avec le vent, le paysage, les grands couloirs, déserts, et puis subitement une ombre qui passe au loin, on se demande qui c'est parmi la demi-douzaine de personnages. Voilà, moi je me suis bien amusé à l'écrire et j'espère que les lecteurs ont plaisir à le lire.
Alors nos auditeurs, je voudrais leur parler de votre bureau chez vous, des personnages d'horreur là aussi, carcasses de loups-garous, squelettes, corbeaux, une momie je crois même. Vous êtes clairement à l'aise dans cette déco, dans cet univers. Quand on joue autant avec ces codes-là finalement, Maxime Chattam, on n'a plus peur du tout?
En fait, c'est surtout que j'ai essayé de construire un bureau qui était à cheval entre la réalité et la fiction. Et quand vous entrez dans mon bureau, il y a des dizaines, sinon des centaines d'objets un peu partout. Je vous mets au défi de savoir ce qui est vrai. Est-ce que ce crâne humain est vrai? Sauf que si celui-ci est vrai, est-ce que celui d'à côté est vrai? Parce que vous avez remarqué, à côté, ces canines sont anormalement longues. Ce serait le crâne d'un vampire. Est-ce qu'à côté, c'est une vraie météorite? Est-ce que la momie qui est là, allongée, au moment où je vous parle, à côté de moi, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle va se réveiller? Et j'aime bien jouer avec tout ça. Il y a des clin d'œil à tous les grands romans que j'ai aimés, à Peter Pan, à Conan Doyle, à Dracula, etc. Et j'aime bien naviguer entre ces dans ce monde-là, en fait, entre réalité et fiction, parce que c'est le meilleur moyen d'écrire finalement. Je suis réel, mais j'écris des histoires qui ne le sont pas. Et ben, ce lieu me permet de le faire de façon assez pratique. Et j'aime bien cette ambiance. Il faut juste y ajouter une petite odeur, c'est celle de l'encens. Ça, on oublie de le dire.
Et dans le même temps, vous, ça s'entend, hein, je crois, vous avez toujours un grand sourire, toujours la banane. C'est peut-être ce qui fait le plus peur d'ailleurs.
C'est possible. Non, le plus flippant, c'est peut-être que je me délecte à l'idée des tourments que vont avoir les lecteurs à lire mes livres. Et je vous cacherai pas, quand je mets le point final d'une histoire, ma première envie maintenant, c'est que le lecteur l'ait dans les mains, et je rêverais d'être derrière, au-dessus de l'épaule de chacun d'entre eux, chacun d'entre elles, pour voir leur tête quand ils lisent certains passages. Ça, c'est la grande frustration du romancier finalement, de ne pas pouvoir voir en temps réel l'émotion que ça procure au lecteur. J'aime bien qu'il vienne me la raconter, en tout cas.
Et on va mettre le romancier au cinéma. Je rappelle qu'on parle du festival du film fantastique de Gérard May. Vous êtes comment, vous, au cinéma, quand vous avez peur? Tétanisé? Vous hurlez? Vous attrapez le bras du voisin?
Non, pour être honnête avec vous, j'ai rarement peur au cinéma. Je suis assez stoïque. C'est-à-dire que même les moments, les jumpscares, comme disent les Américains, où toute la salle saute en général, je suis assez... je bouge assez peu. Et sinon, éventuellement, je vais rire parfois. Ça peut m'arriver. J'aime bien rire. Je trouve que la peur, parfois, peut faire rire. Mais vous allez me dire, c'est un moyen de se protéger, probablement, oui.
Alors, il y a le festival du film fantastique de Gérard May. Il y a votre roman, L'Illusion, plus de 100 000 exemplaires vendus, Maxime Chattam. Et en ce moment, c'est très secret, hein, vous travaillez sur une série, je crois. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, je travaille sur plusieurs projets, dont une série, mais hélas, non, je n'ai pas le droit d'en dire plus, sinon je serais obligé de vous transformer en personnage d'un de mes romans, justement.
Peut-être que ça vaut le coup, d'ailleurs. Hein. Franchement, je prends. Chiche.
Oh, je suis pas sûr, vous savez, ça finit souvent mal pour eux.
J'ai une dernière question, Maxime Chattam, ce matin, et ça c'est connu par le public, je crois. Vous avez rencontré votre épouse Faustine Bollaert sur Europe 1 en studio. Est-ce qu'il est vrai que pour un rancard, vous l'avez emmené dans un hôpital psychiatrique?
Ouais, c'est vrai, ouais. Bah oui, mais il faut faire les choses de façon originale. À un moment, j'ai envie de vous dire, le dîner au restaurant, une fois que c'est fait, qu'on a fait connaissance, il faut montrer un peu qui on est. Moi, j'ai montré à ma femme qui j'étais en l'emmenant se promener, visiter un hôpital psychiatrique abandonné, et on a terminé sur le toit, regarder les étoiles. Voilà, ça, c'est un peu plus original.
Je confirme. Merci beaucoup, Maxime Chattam.
Merci à vous, c'était un plaisir, merci Mathieu.
Le festival du film fantastique de Gérard May, c'est à partir d'aujourd'hui, et les films à la séance, hein, en distanciel depuis votre canapé, c'est 5 euros par film, allez-y. 7h51, on s'imaginait, Nicolas Bétou et moi, inviter une demoiselle dans un hôpital psychiatrique. Non, il faut être Maxime Chattam pour le faire.
C'est sûr.
Ils ont dit beaucoup de choses et ils se sont souvent contredits. Les médecins médiatiques doivent-ils se confiner? L'édito politique de Nicolas Bétou, justement, dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Finalement, le troisième confinement attendra.
Ben oui, puisque avant de prendre sa décision, Emmanuel Macron veut avoir en main les résultats de 15 jours de couvre-feu à 18h. C'est donc ce week-end que le compte à rebours sera relancé.
Pour une décision probable la semaine prochaine ?
Exactement. Alors ce que traduit ce report d'une semaine, c'est à la fois la volonté d'Emmanuel Macron d'être au plus près de la réalité de l'épidémie et la crainte de voir les Français renâcler face à un troisième confinement. Car le moral de la population est mis à rude épreuve. On oscille entre espoir et désespoir, on passe du vaccin au variant dans une instabilité permanente. Le chef de l'État a d'ailleurs bien raison de se préoccuper de la psychologie des Français parce qu'à la fin, c'est lui qui sera tenu pour responsable, lui qui devra rendre compte politiquement de ce qu'il aura décidé sur le plan sanitaire. C'est lui-même, même s'il n'est pas le seul à compter.
Et qui d'autre ? Vous pensez à qui ? Aux médecins ?
Mais oui, les médecins, enfin, ceux qui passent une partie de leur temps dans les médias, matin, midi et soir, le plus souvent. Leur parole, bien sûr, est utile, mais que penser de ceux qui disent blanc un jour, noir le lendemain, qui appellent à un confinement urgent un soir et reconnaissent le lendemain que ça peut attendre? Que dire de ceux qui exhortent à un blocus total jusqu'à l'été ou même septembre? Ou de ceux qui suggèrent maintenant que la victoire sur le virus serait impossible? Ils ont des doutes, fort bien, le virus est mutant, dommage, mais ils devraient se rendre compte, ces médias médecins, aux certitudes changeantes, que le moral des Français est indexé sur leurs avis, comment dire, leurs avis variants, et que l'indécision des politiques est soumise précisément à leurs prescriptions aléatoires.
Oui, mais sauf que dans une crise sanitaire, ça paraît impossible de se passer de l'avis des médecins.
C'est impossible, mais il faut comprendre comment on en est arrivé là. Lors du premier confinement, lorsque Emmanuel Macron a donné, quoi qu'il en coûte, la priorité absolue aux sanitaires, il a lié ses décisions à l'avis des médecins. Leur parole est devenue alors politique. Leurs avis ont motivé des fermetures de pans entiers de l'économie, le blocus de l'école, l'interdiction d'aller où bon nous semblait. Depuis le deuxième confinement, plus light, les choses se sont rééquilibrées. Le politique a repris une part d'autonomie sur le médical, mais les médecins ont continué à croire, ou même à espérer, que c'était eux qui décidaient. Et ils ont continué à s'exprimer comme des décideurs. Et bien, c'est cela qu'ils devraient recaler.
Votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Bertrand Perrier, avocat, enseignant, auteur de La parole est un sport de combat aux éditions Jean-Claude Lattès. Et c'est Nicolas Sarkozy qui est venu lui dire un mot.
Oui, bonjour à vous, monsieur Béliard, monsieur Bétou. Pardon, excusez-moi, mais j'ai pas encore lisé le livre de Bertrand Perrier. Mais c'est vrai qu'on a des tas de points communs d'après la présentation que vous en faites. Il est avocat comme moi et il est écriveur comme moi.
Bertrand Perrier livre.
Ça en fait des points en commun.
Oui, ça se note. Bertrand Perrier livre dans son ouvrage ses astuces pour améliorer son usage de la langue française. Il affirme, pour être un bon orateur, il faut lire, mais aussi écouter les autres.
Écouter les autres, c'est essentiel pour orater, faut acoustiquer les autres. Moi, je vais vous faire une confidence, ça va plaire à M. Bétou, oui. C'est lui qui m'inspire. Quand je l'écoute, c'est ma grande source d'inspiration. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut des facilités naturelles, et puis il faut dire aussi que j'adore liser.
Le Bertrand Perrier trouve Macron plutôt bon orateur.
Oui, pardon, excusez-moi, c'est le président de la République. Dites donc... Il va dégonfler de la montgolfière, Bertrand Perrier. Il me trouve plutôt bon, c'est ça que vous êtes en train de dire, Béliard? Plutôt bon? Non mais c'est Bétou, dites-lui, je suis le meilleur depuis 50 piges, j'ai pas photo. Hein, écoutez, j'ai vu la bibliothèque personnelle de Nicolas Sarkozy, il y avait juste l'autobiographie de Luis Fernandez, franchement. Et celle de Hollande, vous savez quel livre il y avait dans la bibliothèque de Hollande? La cuisine des mousquetaires de Maïté, c'est tout ce qu'il y avait, voilà.
C'est signé Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Tous les jours, on retrouve Nicolas à 8h45 pour la revue de presse, et Bertrand Perrier, enseignant, auteur de La parole est un sport de combat. On va parler du malaise étudiant à 8h15 avec Sonia Mabrouk. Bon réveil à tous. 7h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, la pluie est avec nous aussi, la pluie arrive et son contingent de verglas, de neige et malheureusement aussi de situations extrêmement difficiles pour certains d'entre nous avec les risques d'inondation. Nous ne sommes pas là, sachez que la pluie est maintenant présente sur une bonne partie de la France et ce sont des bruines en général, notamment sur la capitale. Il bruinera ou en tout cas ce sont des fines pluies sur la Normandie, la vallée de la Loire, la Champagne, le Morvan, le Berry, des pluies un peu plus soutenues dans le sud-ouest et le Poitou Charente, et puis en Alsace, en Franche-Comté, en Rhône-Alpes, des chutes de neige assez marquées, alors que le verglas, lui, nous le voyons en ce moment dans les Ardennes et surtout en Lorraine, notamment dans la région de Nancy. Soyez particulièrement prudents, bien sûr. Les températures vont monter dans le courant de la journée et seront plus douces qu'hier, entre 7 et 13 degrés. Demain, il fera encore plus doux jusqu'à pratiquement dimanche et après, on ne sait pas exactement, un point d'interrogation que je lèverai demain.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9.